Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Je ne sais pas s'il y a déjà quelqu'un qui vous a dit « Je suis endetté envers toi, je ne réussirai jamais à payer cette dette-là. » Ce n'est pas nécessairement une dette en argent, mais c'est quelqu'un qui se sent éternellement endetté envers vous. Je pense qu'on a tous ces gens-là qu'on leur doit, pour certains, même la vie éternelle. Tu sais, pensez à la personne qui vous a conduit à Jésus, ou qui vous a fait connaître la vie éternelle, ou son église, puis que là, dans son église, vous avez entendu parler de la vie éternelle. Quelle dette est-ce qu'on a contractée envers ces gens-là? Oui, le salut est par grâce, mais on sera toujours éternellement reconnaissant qu'une personne a osé nous parler de Jésus, puis que notre éternité a été changée. Une fois, il y a une femme qui est venue un an après un incident qui s'était produit, avec une enveloppe, et dans l'enveloppe, 100 $. Puis elle dit, ce n'est même pas suffisant pour te dire à quel point je suis reconnaissant. L'année d'avant, on était en train de faire un rap avec l'église. Un rap, c'est une période de questions et réponses sur le bord de la plage. On était peut-être à 200 pieds de la plage, mais il y avait cet enfant avec un gilet fluo qui me fatiguait parce qu'elle s'en allait, puis elle s'en allait vers l'eau. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas de parents pour la surveiller. Et puis, en effet, je me suis tourné la tête, puis là, je ne voyais plus le gilet fluo. Et là, ma femme, elle avait le regard inquiet, autant inquiet que moi, mais moi, je suis en train de faire l'animation, là. Puis là, je vois ça, puis dans ma tête, c'est, je vois un petit peu quelque chose dans l'eau, mais tu sais, dans l'eau comme ça, tu ne vois pas comme quand tu es en vue d'avion, là. Je suis de côté, là. Puis je dis, il y avait un gilet fluo, il n'y a plus de gilet fluo, et ça me fatiguait. Puis là, quand j'ai vu que ma femme, elle avait un regard inquiet, je suis parti à courir de toutes mes forces. Je me serais décroché les hanches, je pense. Le lendemain, j'ai vu que j'ai couru plus que ce que mon corps pouvait me permettre, l'adrénaline, mon ami. J'ai sauté, je suis arrivé près de l'enfant, je l'ai accoté à terre, elle a craché de l'eau. Puis le troupeau est en train de s'en venir en courant encore après. Le troupeau, c'était notre église. Puis finalement, j'ai pris l'enfant, je l'ai mis dans les bras de ses parents. Puis la semaine d'avant, c'était passé la même affaire. L'enfant commençait à convoiter l'eau, puis elle commençait à avoir les pieds, les souliers dans l'eau. J'étais parti à courir, je l'avais ramené à ses parents. Puis c'était la même petite enfant. Puis j'ai dit, la semaine passée, je te l'ai faite. Là, je l'ai ramené, mais je ne sais pas pour la prochaine fois. Puis j'ai donné un trac d'évangélisation, tu sais. Puis, un an après, j'ai reçu cette lettre-là à l'église. La personne, elle savait où ce qu'on se ressemblait, puis elle a écrit, ce n'est pas suffisant, je serai toujours reconnaissant pour ça. Quelle chaleur sur le cœur, tu sais, le Saint-Pierre, je l'ai donné à l'église. Je disais à mon pasteur, je le garde sous, je le mets dans le panier. Mon pasteur m'a dit de le mettre dans le panier, fait que j'étais bien obéissant. Après ça, j'y ai repensé, j'ai pas dû le garder, non, c'est une blague. Moi aussi, je pense à ceux qui m'ont fait connaître l'Église, ma sœur qui m'a fait connaître son Église, puis à celui qui a prêché ce soir-là, puis que mes yeux se sont ouverts sur la vie éternelle. Je pense à Billy Graham et la croisade qu'ils ont faite au début des années 90. Et là, j'ai reçu la certitude de mon salut. Je veux dire, je serai éternellement reconnaissant de ces hommes et de ces femmes qui ont été sur mon chemin. Hein? Ceux qui m'ont enseigné au travers des années. J'ai contracté une dette envers ces gens-là. Et une des manières que je l'ai acquitté cette dette-là, ou en partie, ça a été de contribuer financièrement à leur ministère, ça a été de contribuer en échange des services spirituels qui m'avaient été donnés. Et donc, elle continue encore, cette dette-là, à être repayée par ma reconnaissance que j'ai envers ces gens-là. N'oubliez pas ceux qui vous ont fait connaître l'Évangile, et n'oubliez pas d'être reconnaissant envers eux. Qui vous a fait connaître l'Église? Qui vous a conduit à Jésus, le Fils de Dieu? Est-ce que vous avez eu des enseignants ou des pasteurs qui vous ont aidé à cheminer dans votre vie chrétienne? Est-ce que vous vous sentez endetté envers ces gens-là? J'aimerais qu'on prenne quelques instants aujourd'hui pour qu'on réalise que notre vie et notre éternité est changée à cause d'hommes et de femmes que Dieu a mis dans notre vie. On doit prendre le temps de réaliser qu'on est endetté envers ces gens-là. Je vais vous montrer que c'est un principe qui est biblique, d'être endetté les uns envers les autres. Même David, il disait, comment je vais t'exprimer ma reconnaissance? Tu sais, il demandait ça à Dieu, même pour ses faveurs qui ont été données. Parce qu'un don en appelle un autre. Parce que la grâce, même si elle n'a pas besoin d'un don en retour pour être manifestée, un don en appelle un autre. La conséquence, c'est que le Christ nous a rachetés complètement par grâce, mais pourquoi est-ce qu'on veut lui donner la vie? Ce n'est pas qu'on veut le rembourser, c'est que ça l'appelle, le don appelle à un don. Le don de ma vie aussi au Fils de Dieu. Et donc, je veux vous parler de cet endettement-là que nous avons envers les enfants de Dieu. Des fois, je vais faire un petit peu de silence durant mon message parce que je voulais faire l'Épître aux Philémon en un message. Il y a 25 versets, puis vous savez que quand je fais Colossiens en 4 chapitres, je le fais en 28, 30 messages. Mais là, je veux faire Philémon, puis je veux tourner la page puis dire « on a fait ça aujourd'hui ». Fait que je vais sauter par-dessus du stock. Fait que des fois, je vais avoir un petit silence juste pour voir « hop, ça, je vais le passer, ça, je vais le passer ». Je ne veux pas vous bourrer nécessairement la tête avec plein d'informations, mais j'aimerais bien qu'à la fin de ce message aujourd'hui, nous ayons parcouru l'Épître aux Philémon. Donc, si vous voulez tourner dans Philémon, sinon, toute l'Épître aux Philémon va être affichée à l'écran exceptionnellement. Parce que je veux que vous ameniez vos Bibles, fait que d'habitude, je ne les mets pas toutes à 9 ans. Peut-être que la personne qui vous a conduit à Jésus a fait naufrage par rapport à la foi. On a dit récemment qu'une personne sur quatre finissait bien la course chrétienne. Fait que grandes sont les probabilités que soit nous ou ceux qui nous ont conduits à Christ bifurquent, s'éloignent, fassent naufrage par rapport à la foi, mais on a une dette envers eux autres pareil. C'est-à-dire d'être reconnaissant au fait qu'ils nous ont fait connaître l'Évangile. Okay? Et donc, Paul disait dans un contexte de payer ses dettes, il disait, hey, les chrétiens ne devraient pas avoir des dettes qui ne se payent pas entre eux parce que ça fait des mauvaises relations. Mais dans ce contexte-là, on va faire apparaître l'animation. Puis, si jamais vous avez la manette, là, OK. Y a-t-il quelqu'un qui peut me l'apporter à la manette? Donc, dans un contexte où toutes les dettes devraient être bien réglées entre nous pour ne pas laisser de l'argent ou des choses matérielles entre nous, Paul va dire, « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » Et c'est une dette qu'on a entre frères et sœurs qui restera toujours impayée parce que le solde ne sera jamais complètement libéré. C'est une dette que tu vas toujours avoir envers les enfants de Dieu. « Devez-vous rien entre vous, sinon que de vous aimer les uns les autres. » Le titre du message, c'est « Au nom de l'amour » et on va faire les versets 1 à 25 de l'Épître. Le contexte, bien, c'est le fun parce qu'avec Colossiens, on en a déjà parlé pas mal du contexte de Philémon. La maison de Philémon, c'est là où est-ce qu'elle est l'église de Colosse. Vous rappellerez qu'Onésime, c'était son esclave puis qu'il l'avait quitté, il l'avait sûrement volé et donc il y a eu une dette. Onésime a contracté une dette envers Philémon, et se serait converti en prison et serait prêt à revenir chez son maître pour être restauré. Hein? Et donc, lui, il a besoin de réparer ce qui est volé, ou il a besoin de rendre ce qui est volé, ou réparer ce qui est détruit. Mais on voit que dans cette lettre-là, Paul fait appel à une dette que Philémon a envers Paul, hein? Et il mise sur l'amitié que Paul a avec Philémon pour demander une faveur. Il parle de dette. Il dit, tu me dois quelque chose, mais là, Onésime va revenir, fait que laisse-les pas payer rien, moi je vais payer, mais encore, tu as un compte envers moi, dit Paul à Philémon. On va voir ça. Et la faveur qu'il lui demande, c'est pardonne Onésime, puis reçois-le avec réparation. Et on va regarder ça ensemble. On va commencer, on ne lira pas toute la lettre, on va la lire verset par verset. Donc, on lit le premier verset. « Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans sa maison. » Donc, on voit ici que Paul est accompagné de Timothée. Timothée vient le voir en prison. Et Paul écrit de la prison. Et Paul aurait pu écrire « Paul, apôtre de Jésus-Christ et ambassadeur. Reçois, Philémon. Il aurait pu utiliser son autorité, il aurait pu utiliser sa position, mais il ne fait pas ça. Il dit, Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Premièrement, son service pour Jésus l'a amené dans le trouble. Il s'est fait emprisonner à cause des choses qu'il enseignait, puis il y a des Juifs qui l'ont fait emprisonner. Donc, son service pour Jésus-Christ l'a mis dans le trouble. Il est en prison. Donc, Paul, dans le trouble pour Jésus-Christ. On pourrait lire ça aussi. Mais ce qui est intéressant aussi, il ne dit pas Paul, prisonnier de la prison de Rome. Il s'appelle prisonnier de Jésus-Christ. Et comme Dieu est souverain, il peut faire ce qu'il veut, quand il le veut, la prison est donc celle de Jésus-Christ aussi. Et Jésus-Christ pourrait faire un tremblement de terre comme ça, comme il l'a fait avec Pierre, puis faire sortir Paul drette comme ça. Alors, le Dieu souverain se plaît à apprendre des choses qu'il tolère ou qu'il n'aime pas pour accomplir ce qu'il aime, et Paul n'en fait pas exception, puis Paul ne dit pas « je suis en train de subir, je ne suis pas dans le plan de Dieu, je suis en train de subir ». Non, il est là et il reconnaît que Jésus contrôle même la prison. Et être prisonnier de Christ, être prisonnier de la prison, ça équivaut à être prisonnier de Christ. Mais en tant que prisonnier, Paul, il n'est pas en train de demander à Philémon de faire un sacrifice que lui-même n'est pas capable de faire. Paul, c'est un gars qui fait des sacrifices, il perd ses libertés. Et je pense que toute personne qui veut influencer d'autres personnes dans le monde a besoin d'être habituée à faire des sacrifices parce que les gens vont suivre quelqu'un qui est prêt lui-même à se sacrifier et à se discipliner pour quelque chose qu'il juge important. Et donc, l'essence du leadership, l'essence du royaume de Dieu, c'est des gens qui passent en avant de nous puis qui ont frayé un chemin, se sont sacrifiés eux-mêmes, le premier, puis tous les autres hommes et femmes de Dieu qu'on a suivis, c'est des gens qui sont habitués à faire des sacrifices. Et Paul en est un. Puis il va demander un sacrifice à Philémon, c'est de pardonner, de laisser aller sa rancœur, puis de pardonner Onésime. Et donc, en perdant des libertés pour servir Jésus-Christ, Paul interpelle puissamment ceux qui lisent la lettre, mais encore plus Philémon, dans lequel est l'Église dans sa maison. Il n'est pas le pasteur, mais il est très au milieu de cette Église-là. Il interpelle Philémon à perdre quelque chose pour Christ, pour la cause de Christ. Il perd quelque chose en reprenant, mais en même temps, Paul va essayer d'y montrer, non, tu ne perds pas. Quand tu sers Dieu, tu ne perds pas, tu gagnes. Tu avais perdu un esclave, tu viens de le gagner pour l'éternité. Philémon, hein, on le voit, il est appelé notre bien-aimé, notre compagnon d'œuvre. Philémon, il ouvre sa maison pour l'Église. C'est un compagnon dans le ministère, il ouvre sa maison. Et il est considéré dans l'Église de Colosse. Bon, il y a une salutation qui est faite aussi à Archip. Si vous regardez à la fin de Colosse, dans la dernière phrase, c'est écrit « Dites à Archip de bien faire son ministère ». Lui, Archip, il est à Laodicée, qui est à peu près à 10 minutes en voiture, peut-être un petit peu plus long dans ce temps-là à pied, mais à 11-12 kilomètres, et il est appelé compagnon de combat. Et quelqu'un qui est compagnon de combat, ça veut dire celui qui milite à côté. Paul est à Rome, lui est à Laodicée, Philémon, il est à Colosse. Ils sont en train de chacun faire un combat. Et Paul avait terminé la lettre, ça je l'avais dit. Okay. Philémon, chapitre 3. Quand on dit Philémon, chapitre 3, c'est verset 3. Souvent, vous allez voir ça dans un petit épître, là, comme Philémon, titre. Vous dites, il est où le verset? Bien, il n'y a pas de chapitre. Fait que, dans le fond, ça serait plutôt ici, j'aurais dû écrire le chiffre 3. Que la grâce et la paix... J'avais des belles animations pour ça. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu et Père du Seigneur Jésus-Christ. Là, ici, c'est intéressant parce que il y a une raison pourquoi qui. Je vais juste arrêter le téléphone. Le téléphone sonne sur mon portable, c'est cool, hein? OK. Il y a une raison pourquoi Paul fait cette salutation-là. Il n'est pas juste en train de dire bon, mais que Dieu te bénisse ou salut, là. Okay, il est vraiment en train de dire quelque chose ici, que la paix, la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est qu'il demande la paix et la grâce qu'elle leur soit donnée. J'ai aimé, quelqu'un a déjà dit, il y a de la grâce quand les gens cherchent la paix. Il y a de la grâce quand les gens cherchent la paix. Et il y a de la paix là où les gens comprennent et administrent la grâce. Il y a de la paix qui revient quand les gens comprennent la grâce de Dieu et quand ils manifestent la grâce de Dieu. Et donc, finalement, on a besoin de comprendre et d'avoir la grâce de Dieu avec lui. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de la charité pour tous les saints. Donc, premièrement, regardez comment c'est personnel. Paul, il dit, je rends continuellement grâce à mon Dieu. Il ne dit pas à Dieu, il dit à mon Dieu. Paul, avant, c'était un persécuteur de croyants. Il pensait qu'il servait Dieu, mais il était ennemi du Seigneur. Et il a reçu miséricorde, il a été pardonné, il est rentré dans une relation personnelle avec Dieu à cause de la grâce de Dieu. Et donc, c'est dans les termes personnels de sa relation avec Dieu qu'il parle. Et il veut que Philémon sache, un, qu'il prie pour lui, hein, je fais mention de toi dans mes prières, qu'il est reconnaissant aussi pour Philémon, il le remercie pour la foi qu'il a au Seigneur Jésus, et aussi il veut que Philémon voit qu'il reconnaît qu'il aime les frères. Et un amour pour les frères trouve sa racine dans une foi dans le Seigneur. Hein? Je suis informé de ta foi et de ta charité pour tous les saints. Une foi dans le Seigneur, la foi dans le Seigneur, produit un amour pour tous les frères. On a lu ça en guise d'introduction, un verset qui était similaire à ça. Et encore, comme dans la lettre aux Colossiens, il prend la même formule. Vous regarderez les premiers versets de Colossiens, puis vous regarderez, ça ressemble beaucoup, beaucoup. Je suis informé de la foi et de l'amour que vous avez pour tous les saints. Ici, ça pourrait être dans tous les saints, ou au milieu des saints. La foi qu'on a n'est pas pour nous chez soi. Elle n'est pas juste pour une expérience personnelle, pour une expérience isolée avec Dieu, mais elle se traduit par un amour au milieu des saints. Okay? Et on est dans une société que c'est de plus en plus pour soi. Tu vas aller à l'école, puis les gens n'aideront pas son voisin à l'école parce qu'ils veulent finir premier à l'examen. Ils vont essayer de comprendre le plus vite, ils vont essayer de faire le plus vite possible, puis ils se disent, si j'aide l'autre, ça va me retarder dans mon progrès. On est dans un monde où c'est chacun pour soi. Hein? Et donc, la foi, au contraire, elle vient briser la pensée du monde, puis elle nous amène à un endroit où ce qu'on va faire profiter aux autres. Okay? Je pense que j'ai devancé mon sujet, mais ce n'est pas grave. Regarde, s'il lui demande que ta participation, donc il dit, je prie pour toi, je prie que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. Philémon, il vit quelque chose avec le Seigneur et sa foi qu'il a en Dieu doit aussi se traduire par un amour pour les autres. Il dit, je sais que tu as un amour qui est connu au milieu de l'Église, mais la foi n'est pas une expérience isolée, puis il veut que sa foi en Dieu soit profitable pour les autres. Et c'est le cas pour chacun d'entre nous. Notre foi au Seigneur Jésus-Christ, Dieu veut qu'elle soit aussi profitable pour les autres. Et comme je disais, on est dans une société chacun pour soi, mais l'Évangile vient tout transformer. Et maintenant, l'autre fait partie de l'équation à tel point que dans Philippiens, il va dire, avant de chercher votre propre intérêt, cherchez d'abord celui d'autrui. Récemment, on est allé en ville ici, puis on a demandé, y a-t-il une famille qui rentre à l'école, puis qu'il y a plusieurs enfants, puis qu'ils ont de la misère à arriver, là, vraiment à joindre les bouts. Finalement, il y a eu des appels qui se sont placés, puis on attend que, pas un nom de famille, mais un besoin qu'eux auront détecté. Le directeur de l'école va regarder à un moment donné, puis nous autres ensemble, si vous le voulez, on va commencer à mettre un petit montant à chaque semaine. Puis ils disent que c'est vers la fin septembre qu'ils voient les gens qui n'arrachent là parce qu'ils n'ont pas été capables de payer toutes les choses scolaires puis tout ça. Et nous autres, on va arriver là. Puis on va avoir mis un petit peu d'argent, un petit peu de côté pour faire du bien à une famille. Okay? Et donc, la personne m'a demandé, j'étais avec Juliane, elle nous a demandé, vous avez combien? Je dis zéro. On a zéro, mais on serait prêt à faire quelque chose, par exemple, pour une famille. Puis on s'est dit, de toute façon, en tant qu'Église, nous-mêmes, il nous manque de l'argent, tu sais, pour faire rouler tout ça. Là. Fait qu'on n'est pas, là à courir un gros projet là, pour aider 100 familles. Là. Mais on va aider une personne. On s'est dit, on va commencer avec une famille, puis on va faire quelque chose de concret pour la rentrée. Fait que j'ai dit, il y a 0 $, mais dites-nous-le, ça va être quoi le besoin, puis on regardera qu'est-ce qu'on peut faire. Aider une personne. Et Paul dit que ta participation à la fois soit efficace pour la cause de Christ en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. que, comme dans Actes au chapitre 2, c'est écrit, ils obtenaient la faveur du peuple. Pourquoi? Ils faisaient du bien partout ce qu'il allait. Je veux dire, Dieu t'a doué dans quelque chose de différent de quelqu'un d'autre. Dans ce monde-ci, il faut que tu fasses quelque chose qui est profitable pour toi. Et pourquoi ça ne serait pas, je vais vraiment profiter pour profiter à d'autres? Pourquoi ça ne serait pas, je vais faire plus d'argent pour en donner à d'autres? Pourquoi c'est pas, j'ai reçu un talent, je vais aider ceux qui sont moins bons dans ce domaine-là? Et l'Évangile, elle vient transformer ça parce qu'on vient incarner le Fils de Dieu qui, lui, est venu puis nous a donné le meilleur. Hein? Et donc, la cause de Christ est reconnue par toutes sortes de biens, toute espèce de biens que l'enfant de Dieu va faire, que Philémon va faire, et il s'apprête à lui demander quelque chose de bien, quelque chose qui devrait faire de bien pour Philémon. Et donc, il lui dit, que ta foi soit profitable. Là, c'est le temps. Là. Tu parles de la grâce, tu enseignes des messages sur le pardon, tu sais. Là, c'est le temps. Là. Fais-les. Okay? Donc, la foi, même la religion pure et sans tâche, c'est prendre soin des pauvres. On voit ça, Jacques nous parle de ça. OK, on continue. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Paul, il vit de la joie, un court moment de joie, peut-être des moments de joie quand il pense, avec tout le reste de sa peine qui est la prison, il vit des moments de joie. Et qu'est-ce qu'il réjouit? C'est que Philémon aime les gens qui se réunissent dans sa maison et il tranquillise leur cœur. Paul va dire, j'ai été consolé. Il est consolé lui aussi. Il est consolé du fait que dans cette petite église, dans sa maison, Épaphras est en prison avec Paul aussi. Donc, lui aussi est compagnon de captivité. Fait que leur pasteur, il est aussi en prison. Fait que là pendant ce temps-là, mon ami, les faux docteurs sont rentrés puis ont profité du fait qu'Épaphras n'était pas là pour essayer de semer une division dans cette petite église-là. Et l'amour de Philémon a tranquillisé le cœur des frères. Quand il y a un feu, il y a deux options qu'on a. On a deux chaudières dans nos mains. Tout le monde, on a deux chaudières. On a la chaudière d'eau et la chaudière de gaz. Hein? Et donc, la chaudière de gaz, c'est le feu, pogne, puis on panique. Le pasteur a dit ça. Hein? Non. Oui, puis l'autre a fait ça. Non. Puis je te le dis, l'autre a réagi comme ça. Pas vrai. Je te crée pas, l'autre dit. Je te le dis, l'autre dit. Je te crée pas. L'autre dit. Je te le dis, l'autre dit. Je te crée pas. Je te jure. Oh, ben là, je te crée. Vous vous rappelez pas d'Yvon Deschamps? Hein? Vous êtes trop jeune. Du feu. Hein? Non, pas vrai. Puis ça aussi? Non, pas vrai. Puis là, ça. Oh, l'affaire était petite comme ça, mon ami. C'est devenu un éléphant dans la pièce. Je veux dire, tout le monde fonce dedans. Ça a donné aux petites choses un grand ombrage. La panique. Le cœur des frères a été tranquillisé. Philémon arrive avec ses gougounes. Quoi qui se passe? Il y a des faux enseignants. Pas grave. Regarde, qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'Épaphras nous a enseigné d'après les instructions qu'on a reçues lui? Ah, c'est pas vrai, ça. Qu'elles se promenaient avec leur doctrine, ça n'a pas de bon sens. Il a tranquillisé le cœur des saints. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il était calme. Il dit, « Hey, don't panic, God is in control. » Dieu est en contrôle. Respirons. Une souris qui fait peur à un éléphant. Tu sais. Fait que Philémon, il est ça, puis Paul, il est en prison. Il dit, « Hey, Epaphras, c'est avec moi. On est pogné ici dans la prison, mais ça a l'air que les gars sont calmes. » Philémon a su les rassurer et leur dire, « c'est pas si pire que ça, finalement. » Et ça, ça avait consolé le cœur de Paul en prison. L'œuvre de Dieu continuait, même si Épaphras, le pasteur ou le fondateur de cette église-là, et Paul sont en prison, l'œuvre de Dieu se continue et Paul en est consolé de ça. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis, Paul, vieillard, il est au début de la soixantaine, ça se peut ici que dans certaines traductions manuscrites, on dise « ambassadeur ». Ça ferait peut-être un petit peu plus de sens parce que Philémon aurait à peu près le même âge que lui. Et de plus maintenant, prisonnier de Jésus-Christ. Paul, fais une demande au nom de l'amour et non pas au nom de « je suis un apôtre, je suis ton autorité, tu vas faire ce que je te demande. » Okay? Paul fait une demande au nom de l'amour qu'il a d'abord pour Philémon. Il aime Philémon et il a une position pour lui demander des comptes, mais qu'est-ce qui arrive là quand une autorité nous demande de faire quelque chose et qu'on ne veut pas se faire dire quoi faire? Qu'est-ce qui arrive? Ça va pas bien. L'harmonie diminue, puis les opportunités que le malin rentre là-dedans sont grandes. Dieu a mis deux arbres dans le jardin et ça nous a fatigués. On n'a pas aimé qu'ils nous disent qu'il ne fallait pas aller à cet arbre-là. Fait qu'on est allé. Parce qu'on n'aime pas ça se faire dire quoi faire. Et ça, c'est l'esprit du monde, ça. Et donc, mais Paul, il est rendu peut-être, en tout cas, à 60 ans, 62, 63 ans. Il sait que s'il dit qu'il est un apôtre puis que Philémon devrait recevoir Onésime, l'esclave, qui l'a volé, qui l'a vexé, ça se pourrait que Philémon le prenne mal puis qu'il n'aime pas ça se faire dire. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça qui disent, « Dis pas que je suis obligé, puis ils vont en faire plus. Dis-moi que je suis obligé, je ne le ferai pas. » Le problème, ce n'est pas le commandement, c'est notre cœur. Mais Paul, à quelque part, si ce serait son âge, c'est comme s'il disait, hey, « on choisit-tu nos combats? » Tu sais, est-ce qu'on va se battre avec la manière qu'on va le demander, puis que les gens nous doivent respect? Est-ce qu'on va aller dans cette avenue-là? Ou on va choisir nos combats et pas s'obstiner? C'est comme un vieux lion qui regarde un jeune lion. Le jeune lion, lui... Le vieux lion a des cicatrices dans la face, il a des dents cassées, puis il reste couché, même devant une proie. Tu sais. Puis tu vois le jeune lion, lui, il prend tous les combats qu'il y a. Tu sais. Puis le gros lion, il dit, « Vas-y, le jeune, bats-toi. » Mais moi, je choisis mes combats. Donc, la sagesse, à quelque part, de l'apôtre Paul qui dit, « Regarde, oui, je suis un apôtre, mais je vais gagner plus en persuasion si je te parle au nom de l'amour. » Au nom de l'amour. L'amour qu'il a pour Philémon, l'amour que Philémon a pour lui, puis l'amour aussi qu'il a pour Onésime, parce qu'il a vécu quelque chose en prison avec lui, et on va continuer à voir l'amour que Paul a pour Onésime. Je te prie pour mon enfant. Il appelle son enfant, il n'appelle pas l'esclave, ton esclave. Il appelle mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. D'abord, regardez le mot, c'est comment il fait sa demande. Je te prie. Et dans l'original, on parle d'une supplication, de demander quelque chose comme si on allait cogner à quelqu'un qui était supérieur à nous pour avoir une permission. Et Paul, bien qu'il y ait cette position d'autorité, c'est au nom de l'amour qu'il fait sa requête, puis il dit, je t'en supplie, fais quelque chose. Considère l'amour pour notre nouveau frère. Hein? Et là, il y a une chaleur entre Paul et celui qui l'a conduit à la foi. Et on voit la grâce en action parce que dans la société romaine, l'esclave avait vraiment un rang social qui était vraiment différent de l'homme libre. Et Onésime, c'était un esclave, donc traité comme une personne avec moins de droits, qui était même la propriété de la personne romaine. Et chez les Juifs, ben, on était exclusif, c'est-à-dire que le salut vient des Juifs, il est pour les Juifs, pas mal. Là. Dans la tête des Juifs, c'était un petit peu comme ça. Les autres, c'était un peu des nobody. Fait que, non seulement ils ne le traitent pas comme un nobody dans le racisme, mais en plus de ça, ils le traitent comme son propre cœur, puis il va l'appeler ses entrailles. C'est comme s'il dit, je mets mon cœur sur la table, mon gars. La façon que tu vas traiter Philémon, c'est comme ça que tu vas me toucher, tu sais. Des fois, on voit ça dans le monde, tu touches à un membre de la famille, tu as touché à toute la famille. Ça peut être beau, ça peut être très laid aussi. Parce que quand la maman ours, là, elle défend son petit, là, même si c'est lui qui a tort, là, elle le défend, je veux dire, elle va le défendre à l'os parce que c'est son enfant. Fait que des fois, la jonction qu'il y a entre papa, maman et ses enfants, peu importe, c'est comme tu as touché à mon enfant, c'est à moi que tu as touché, je m'en fous qu'il a tort, c'est à mon enfant que tu as touché. Fait que là, c'est plus la vérité qui règne, c'est rendu le lien familial. Par contre, dans la vérité, ça fait quelque chose de très puissant. Au nom de l'amour, tu as touché à quelqu'un que j'aime, puis au nom de l'amour, puis dans la vérité, ça peut être quelque chose de puissant. Positivement, ou dans la négative, c'est-à-dire si tu fais quelque chose de mal. Mais Paul est en train de dire à Philémon, je t'envoie mon cœur, je t'envoie mon cœur, je t'envoie une partie de moi. La manière que tu vas traiter ça, c'est comme ça que tu vas me traiter aussi. Et il y a un jeu de mots ici dans le verset 11 qui dit, j'en ai déjà parlé, le mot « onésime » veut dire « utile ». Il t'a été autrefois inutile, maintenant il t'est utile. Donc, il y a vraiment un jeu de mots, on en a parlé dans les autres messages, je ne vais pas trop prendre de temps là-dessus, mais il y a quelque chose à gagner là, de pardonner. Parce que quelqu'un qui ne pardonne pas brise le pont qui un jour va devoir traverser. Hein? On a déjà lu quelque chose qui ressemblait à ça. Mes entrailles, mon cœur. Le mot, ça veut dire affection, tendresse, compassion. Il envoie une partie de lui-même. Hein? Et tu le touches, c'est à mon cœur directement que tu vas toucher. Et Paul, c'est au nom de l'amour que je te parle. Philémon recevra le cœur de Paul, pas un esclave ou un voleur, mais il va recevoir le cœur de Paul. Au nom de l'amour pour Onésime, Paul fait une requête. Ça, c'est comme un père qui s'assied avec ses deux enfants, maman est décédée, puis que là, il s'assied avec ses deux enfants ados, puis il dit, regarde, il nous reste juste nous autres. Là. Y a-tu moyen qu'on s'entende? C'est tout ce qu'on a dans la vie, là. C'est toi, moi, toi. On est trois, là. Puis vos blondes. Là. On peut-tu régler nos choses au fur et à mesure? On n'a pas les moyens d'avoir une division dans la famille. On est trois. On est un petit noyau. Un papa qui se rassemble avec ses deux adolescents, puis qui dit, c'est-tu possible? Au nom de l'amour, c'est-tu possible qu'on règle nos choses? Il fait une requête. Il demande. Il est le père, puis il pourrait dire, hey, moi, je m'attends qu'il n'y ait pas de chicane dans ma famille. Mais non, il va avec la supplication, puis il se rabaisse à ses enfants, puis il dit, « C'est-tu possible qu'on vive en paix, frères et sœurs, avec moi? » Parce que là, main partie, puis il y aurait juste une trouille. Il supplie ses enfants. Il leur fait une demande au nom de l'amour de régler au fur et à mesure. Verset 13. Et c'est un peu ça qui fait, au nom de l'amour que j'ai pour Onésime, j'aimerais que mon cœur soit pardonné, parce qu'il envoie son cœur. Je te prie pour mon enfant. Verset 13, « J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. » Oh, là, on commence à voir quelque chose d'intéressant. Paul, il dit, « J'aurais aimé l'avoir avec moi. Tu me le devais. » D'une certaine manière, on va le voir plus tard, il y a comme cette idée qu'il y a une dette, Philémon a une dette. Mais il dit, le bienfait ne doit pas être forcé, mais volontaire. Et souvent, quand il y a des obligations qui nous ont forcées sur nous, ça nous met un mauvais sentiment, fait qu'on dit, non, c'est pas bon les obligations. C'est faux. Et on va voir tout au long de la lettre là, qui s'en vient, là, que le chrétien a des obligations sur sa vie. Mais c'est beau quand le chrétien choisit de s'obliger lui-même à faire cette obligation-là et qu'elle n'est pas forcée sur lui, mais c'est lui-même qui s'oblige à le faire. C'est beau pour le Seigneur, ça. Et donc, Paul aimerait bien le garder parce qu'il est utile à Rome, mais c'est « je ne t'aurais pas consulté, puis je te l'aurais forcé. » Puis Paul voulait voir quelque chose de volontaire et non pas quelque chose de forcé. Il y a une dette, Philémon, envers Paul, puis ça serait une bonne manière de rembourser sa dette, ça serait de lui laisser Onésime. Mais encore, il ne veut pas que son sacrifice soit imposé. Okay. Je veux parler un petit peu du fait que le chrétien a des devoirs. On a lu au début du rassemblement que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, ne sont pas difficiles. Puis qu'on connaît, qu'on aime Dieu parce qu'on aime ses commandements. On aime faire ce qui lui plaît. Le chrétien a des devoirs. Le Nouveau Testament, c'est une règle de vie, c'est une manière qu'un chrétien doit vivre et se comporter. À part les quatre évangiles, c'est assez particulier parce que c'est encore sous la loi dans l'Ancien Testament. Ça l'annonce la loi quand Jésus va venir régner sur la terre, puis ça l'annonce aussi la grâce de Dieu. Fait qu'il faut faire attention de se servir des évangiles comme une règle pour diriger sa vie. Il faut comprendre de quelle dispensation ça parle. Mais les enseignements du Nouveau Testament, en partie dans les évangiles jusqu'à l'Apocalypse, c'est une règle de vie par laquelle le chrétien doit vivre. Bon, on a dit tantôt que l'harmonie est souvent brisée quand on se fait dire quoi faire. Comme tout homme, on n'aime pas se faire dire quoi faire. Et Paul, tranquillement, il va y parler d'une dette qu'il a envers lui. Et cette dette-là que Philémon a, c'est probablement que Paul l'a amené lui-même à Jésus-Christ. Paul ne veut pas que ça soit forcé, OK? Et donc, les chrétiens ont des devoirs. Et un des devoirs qu'ils ont, c'est de donner. En échange d'un service spirituel. Paul l'a amené au Seigneur, Philémon lui doit, honneur, il pense qu'il lui devrait de lui laisser Philémon, Onésime. Tu sais, quand on va à l'épicerie, on n'a pas de problème à payer ce pour quoi on a pris. Quand on va au restaurant, on n'a pas de difficulté. Il n'y a personne qui dit, hey, franchement, il nous charge pour manger au restaurant. Non, parce qu'on a, convenu d'un prix, on a convenu que la bouffe, ça coûtait quelque chose, puis on a accepté de recevoir. On va voir un conseiller, on paye pour un conseiller. On paye nos impôts, ça nous donne des rues, ça nous donne des services, ça nous donne toutes sortes d'affaires. Hein? On paye nos impôts, puis dans les usages normaux de la vie, on ne se pose pas de questions. Mais dans l'intangible, dans le service spirituel, on arrache. On arrache en tant qu'Église. Deux fois dans mon ministère, on a fait des gestes concrets pour parler sur l'argent. Je t'ai dit, mon ami, il y a eu un réveil de la porte arrière, mais une augmentation des revenus, à chaque fois. Et on a mis une petite TV ici, puis là, pendant le chant des offrandes, bien, les offrandes, ça apparaît qu'est-ce qu'on a donné dans le mois. Si on est dans le rouge, ça apparaît. Si on est dans le surplus, ça apparaît aussi. Le jour 1 qu'on a mis ce PowerPoint-là, là, ça a commencé à brasser. L'autre fois, c'était en 2012. En janvier 2012, deux messages sur le don, l'offrande, la dîme, tout ça, expliquer tout ça. Hé, mon ami! C'est là que j'ai réalisé qu'on n'aime pas ça. Puis je m'inclus dedans, on n'aime pas ça se faire dire quoi faire. Là, c'est comme si ça devient concret, là, tu sais. Mais dans les usages du monde, on n'est pas frustré. On ne sortira pas avec nos pancartes parce qu'au cinéma, il nous charge de l'argent. On va regarder des versets qui nous montrent que ce qui rend belle l'obligation de donner, je le dis, le mot, ce qui rend beau l'obligation de donner, c'est que tu le fais parce que tu te l'imposes à toi-même. On voit ça, c'est que tu te l'imposes à toi-même. Ça, ça va être pour vos notes personnelles. Vous pourrez le noter puis le lire à la maison. Je n'aurai pas le temps de tourner. Romains 15, 26. La Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles leur devaient. Voyez-vous ici? C'est pas vrai que donner selon son cœur, c'est donner sans obligation. Non! Donner selon son cœur, ça veut dire de s'obliger à le faire de bon cœur. C'est de prendre ce devoir-là, puis de le faire, et le faire avec joie. Car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Regardez ici, les Juifs ici, l'avantage spirituel, le salut est venu des Juifs, est venu de Jérusalem, mais là, à Jérusalem, il y avait beaucoup de pauvres. Fait qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Donc, il y a comme un échange. Il y a comme un soutien matériel. Donc, que ce soit un enseignant au collège biblique, il a le droit de recevoir une compensation pour avoir été mis à part pour enseigner. Que ce soit un pasteur, un enseignant, à la limite un évangéliste. Et donc, Paul en dit, il parle bien dans 1 Corinthiens 9, je vais vous le lire ici. Regardez le mot, ils ont bien voulu, ils l'ont bien voulu, ils se l'ont imposé, mais ils leur devaient, ils le doivent. Il y a cette idée d'obligation quand même. Dans 1 Corinthiens 9, 6, Paul parle de lui puis Barnabas, puis il dit, est-ce qu'on n'a pas le droit de ne point travailler? Qui fait le service militaire à ses propres frais? Imagine un jeune qui s'inscrit dans l'armée, mais il faut qu'il paye pour tout son entraînement. OK? Qui est-ce qui plante une vigne et qui n'en mange pas le fruit? Donc, un vigneron. Qu'est-ce qui fait paître un troupeau et qui ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que j'ai dit n'existent-elles que juste dans les usages des hommes? La loi ne le dit-elle pas aussi comme la loi le dit de Moïse? Tu n'en mesureras point le bœuf pendant qu'il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Est-ce en train d'avoir pitié des bœufs qui foulent le grain? où il parle aussi à propos de nous. Et c'est drôle que Paul prenne la loi de Moïse pour dire ça. Les gens qui luttent contre le don et l'offrande disent toujours, « C'est dans la loi de Moïse, c'est dans la loi de Moïse! » Ah ouais? Mais Paul, il dit, « Dans la loi de Moïse, il est écrit, tu n'en mesureras pas le bœuf. » C'est-tu pour le bœuf qu'il a dit ça ou pour nous? Il n'est pas sous la loi, Moïse. Mais il prend, parce que ces choses ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes venus à la fin des siècles. Romains 15, verset 4, 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 8. Moi, j'aimerais ça, pas avoir de salaire ici, là, puis de pouvoir prêcher à plein poumon sur l'argent. Parce que moi, je suis un fan de donner. J'aime ça, prendre les prémices de mon revenu, puis de voir comment je vais me débrouiller avec le reste, puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble quand on met notre argent en commun pour impacter le monde. J'aimerais ça. Ça va peut-être arriver un jour, je vous le dis. Ça va peut-être arriver. Puis là, je vais prêcher de tout cœur, parce que là, vous allez dire, il prêche pas pour avoir un salaire. Mais je ne parle pas de vous, là. Anyway. Ah, j'étais tellement des années à ne pas parler sur l'argent. Puis je disais toujours, on garde ça pour la fin, là, dernier chant, le chant de la fin, là, on fait la prière pour l'offrande. On a à peine conscience qu'il y a une offrande quasiment pas choquée. T'sais. Mais les principes sont là, sont vraiment là, puis il faut vraiment les enseigner. Et puis en passant, vous êtes vraiment généreux en tant qu'Église, puis je loue ça chez nous ici, de voir comment que la petite gang qu'on est, la générosité qu'on est capable d'avoir, c'est « wow, je suis étonné de ça ». Paul, il dit « Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Hein? » Il va dire ça toujours dans le verset qui est dans le carreau rouge ici, là. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris. Il est en train d'écrire, puis il dit, garde, je ne dis pas ça, vous me donniez de l'argent. Paul fabriquait des tentes, puis il ne voulait pas avoir plus d'argent d'eux, mais il a dit, moi, je n'ai pas usé de ce droit-là. C'est-à-dire qu'il aurait pu vivre de l'Évangile, mais il a décidé de continuer à faire des tentes, puis faire l'œuvre du ministère. Car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Paul, il en faisait un sujet de gloire, de fabriquer des temples, puis de ne pas être au service. Il n'était pas à la charge du peuple, même s'il avait le droit de l'être. Et donc, il a comparé ça à l'usage des hommes, les militaires, les vignerons, ceux qui font une vigne, c'est-tu normal, qui veulent aussi manger de cette vigne-là. Il a cité la loi de Moïse, comme on vient de voir, et il a dit souvent le mot « droit, droit, droit ». Paul ne fait aucune réclame, il enseigne le devoir de donner. Il se fait un sujet de gloire de ne pas prendre ce droit-là en continuant à fabriquer des temples. Il ne veut pas créer d'obstacle à l'Évangile. Pourquoi? La réticence de l'homme à se faire dire quoi faire. Il dit, garde, je veux même pas, j'écris pas ça pour avoir un salaire. Je l'écris parce que, garde, je vais continuer à fabriquer des temples. Paul, il ne veut pas rentrer dans le « t'es obligé de donner, t'es obligé de faire ». Il fabriquait des tentes et faisait des ministères, le ministère à sa charge. Mais le chrétien doit donner et il doit le faire avec joie. Regarde le verset ici. Il dit, Dieu aime celui qui donne avec joie. Et donner avec joie, ça ne veut pas dire de ne pas avoir de contrainte. Ça veut dire de s'imposer une contrainte, s'imposer un devoir puis le faire ça avec joie. Maintenant, revenons avec notre épître. Vous allez voir pourquoi j'ai fait cette digression-là. « Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, en parlant de garder Onésime, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. » Paul montre la rédemption. Dieu a pris ce qui était une perte, un esclave qui avait volé. Et Dieu qui prend quelque chose qui était une situation qui semblait perdue, rachète cette situation-là, puis la rend de nouveau accessible. Il prend quelque chose de mauvais, puis il le tourne à sa gloire. Et c'est ça un Dieu souverain. C'est un Dieu qui est capable de prendre quelque chose qu'il déteste, puis de faire quelque chose de beau avec ça. Il a été séparé de toi pendant un temps. En passant, Philémon, c'est sûr que tu dois avoir rushé pendant un bout parce qu'il n'était pas là, mais il était séparé un bout de temps. Donc, tu as souffert un bout de temps, mais qu'est-ce que Dieu a fait avec cette situation-là va être pour l'éternité. Dieu a sauvé Onésime, puis il ne sera pas perdu en enfer comme le reste du monde. Donc, il parle à son cœur, à sa vision. « Si donc tu me tiens pour ton ami, regardez au nom de l'amour. » Il écrit la lettre au nom de l'amour. « Si t'es mon chum, si tu m'aimes, si t'es mon ami, reçois-le comme moi-même, reçois-le comme si c'était moi. Et s'il t'a fait quelque tort, s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je paierai. » Autrement dit, si ça te fait du tort là, parce qu'il t'a volé, je ne sais pas moi, 1 000 piastres, hein, mettons, hein? Mais regarde, je vais le payer. Je vais le payer, mais reprends-le, restaure-le, pardonne-le. Mais il dit après, mais pour ne pas dire que tu te dois toi-même à moi. Regardez ici, il compare deux dettes, celle d'Onésime envers Philémon, puis celle de Philémon envers l'apôtre Paul. Il dit, je vais payer, là, si c'est une question d'argent, je vais payer pour ce qu'Onésime a fait. Pour ne pas dire que toi, tu as un bill encore plus grand, celui d'avoir reçu la vie éternelle au travers du ministère de Paul, sûrement. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, tranquillise. Et bien souvent, ce mot-là, tranquillise mon cœur. Il est inquiet que le manque de pardon brise la communauté et brise le nouvel esclave qui s'est converti, Onésime. Hein? Paul est prêt à le mettre sur son compte. Des fois, vous savez, on a brisé quelque chose et on n'est pas capable de le réparer, comme une calomnie qui est partie comme un oreiller à plumes dans le vent. Essaye de ramasser toutes les plumes que tu as envoyées dans le vent, mon ami, puis essaye de refaire un oreiller avec ça. Pas capable. Fait que je peux avoir fait des choses qui ne se réparent pas. Une parole blessante, je ne peux pas la remballer. C'est fait. Je peux demander pardon, mais je ne peux pas aller. Si je brise la fenêtre dans ton sous-sol, je peux aller la réparer. Mais si je te dis une parole blessante, je ne peux pas la ravaler. Dans ce cas-là, celui qui a été blessé ou vexé, c'est à lui d'assumer la perte qui a été causée. Il doit accepter la douleur émotionnelle qui a été faite et ne plus faire payer la partie adverse. C'est ça le pardon. Le pardon, c'est remettre une dette, c'est d'assumer le prix de la facture. De la douleur émotionnelle à tout le moins. Mais il y a quelque chose à réparer. Puis Paul, il joue avec ça. Il dit, s'il a fait quelque chose, je vais le payer. Ça ne veut pas dire que quand on a demandé pardon à quelqu'un, on ne doit pas non plus aller réparer la chose qu'on a brisée si elle se répare. Okay? C'est deux affaires différentes. Mais du côté de celui qui a été vexé, il doit cesser de vouloir une vengeance. Puis il peut vouloir remettre le prix de la chose qui a été brisée. Pardonner, c'est remettre une dette. Philémon doit sa vie à Paul. Et recevoir Onésime, c'est assumer la dette. On arrive à la fin. Vous êtes très bons. Après ça, on va faire la Sainte-Cène ensemble. Verset 21. « C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je te dis. » Moi, je suis un prisonnier. Je t'en supplie au nom de l'amour. Tu es mon chum. Rappelle-toi que je t'ai amené à Jésus. Ce serait la moindre des choses que tu reçoives, Mais dans le fond, quand je pense à toi, je pense à toi dans mes prières. J'arrête pas de dire merci à Dieu, comment que tu aimes les frères. Tu tranquillises le cœur des frères. Il n'arrête pas de l'édifier. Il ne fait pas de la flatterie. Il fait des compliments sincères. Et il pousse Philémon à vivre à la hauteur de ce qu'il est en Jésus-Christ. Et ça, on appelle ça, en psychologie, on a étudié un phénomène qui s'appelle l'effet Pygmalion. Vous pourrez chercher là-dessus, ou l'effet Rosenthal. Ça vient d'un vieux mythe en Grèce, qu'il y a un gars qui a embrassé une statue de marbre, puis elle est devenue une vraie personne, dans le fond. Okay? Fait que là, il y a une mythologie grecque autour de ça. Mais Rosenthal, lui, il s'est servi de ce mot-là pour dire que les gens deviennent ce qu'on veut qu'ils deviennent. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont fait passer pour... ils ont fait des faux papiers, là, puis ils ont rentré dans une école, puis ils ont dit qu'ils faisaient une étude pour une grande université. Là. Tu sais, tu ne ferais pas ça en 2016, admettons, hein, mais dans les années 70, ça a passé. Ils ont fait faire un test de QI aux enfants, puis c'était prouvé que dans les endroits défavorisés, pauvres, les jeunes n'ont pas une très bonne estime d'eux, puis ils n'ont pas des bons rendements scolaires, OK? À cause qu'ils n'ont pas le milieu familial souvent sain pour les encourager à aller plus loin. Fait que là, ils sont allés dans un quartier comme ça, ils ont fait un test de QI, puis ils ont inversé Ils ont tous mis les notes au hasard. Puis il y a 25 % des jeunes qui avaient un QI plus élevé sur les notes qu'en réalité. Puis à la fin, c'est 20 % À la fin de l'année, ils ont refait un test de QI. Puis ces jeunes-là, il y avait entre 5 et 25 % d'amélioration sur le test, de 5 points, de 5 à 25 points d'augmentation sur leur QI. Pourquoi? Personne ne le savait. Personne ne le savait. Les profs, ils ont vu que sur les résultats, il y avait un bon QI, fait que ce soit attendu qu'ils fassent selon le résultat qu'il y avait. Puis parce que les profs ont commencé à traiter les jeunes avec une plus grande attente, les jeunes ont fait mieux. Ils ont fait la même affaire avec des souris. Ils ont dit, ils ont fait un labyrinthe, puis ils ont donné des souris à un groupe 1, puis ils ont donné des souris au groupe 2. Puis là, ils ont dit, tu sais ta souris, tu l'entraînes pour la course, fais ce que tu veux, mais il va y avoir une course entre les souris du groupe 1 et les souris du groupe 2. Et on a dit à ceux du groupe 1, vos souris sont spéciales, sont intelligentes. Puis les souris du groupe 2, on leur a dit, c'est des souris bien ordinaires, tu n'auras pas grand-chose d'eux autres, tu sais. Puis là, quand la course s'est préparée, il y a des souris du groupe 2 qui restaient assis sur la ligne de départ, ne partaient même pas. Puis les autres, mon ami, ça s'en allait, puis ça trouvait son chemin. Parce qu'il avait reçu de l'amitié, il avait reçu de la compassion, il avait reçu un soin particulier que les autres souris n'avaient pas reçu. Et donc, les gens vont faire ce qu'on s'attend d'eux. Et Paul est en train de dire, « Hey, sais-tu quoi, je compte sur ton obéissance quand je t'écris. » Mais je le sais, dans le fond, que tu vas faire bien d'au-delà. Tu es capable de bien plus que ce que je t'ai demandé, qui était de recevoir Onésime, puis de le pardonner. C'est quelque chose, hein? Alors, voici la définition de l'effet Pygmalion au Rosenthal. Ça dit, en pensant que quelqu'un possède une caractéristique, nous changeons notre propre attitude vis-à-vis de cette personne et l'influençons de telle sorte qu'il va effectivement acquérir cette caractéristique ou l'exprimer de façon flagrante. D'ailleurs, les couples qui commencent à se donner deux qualités par jour pendant deux semaines, puis après qu'ils réussissent à continuer, voient leur conflit diminuer ou presque ne plus être présent. Ils font un exercice de chercher dans l'autre un compliment sincère de quelque chose que l'autre a dit ou fait, et le disent comme ça. Ben, pourquoi je le dis? Regarde sa face de bœuf. Non. Commence à donner des compliments sincères, tu sais. Puis, leur conflit diminue comme ça. Pourquoi? Bien, parce que tu es en train de dire à l'autre ça. Tu es bien au-delà de ce que je dis ou ce que je pense de toi. Tu focuses sur ce qui est positif. Les conflits, c'est quoi? On focus sur quoi? Besoin non rencontré. Tu n'as pas encore enlevé le fil d'araignée qui est dans le coin du plafond. Ça fait 3 ans que je t'en parle à chaque heure du souper. Hein? On est là, mon ami, on répète des petites affaires qui font des grands ombrages, hein? sur les murs. Et on va terminer simplement la lettre en même temps. « Prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. » Paul savait que tout n'était pas figé, même si Dieu était le maître de la prison. Il savait aussi que ce Dieu-là écoutait les prières et que bientôt, il serait libéré et qu'il aurait besoin d'un logement pour venir faire du ministère là-bas. « Epaphras, mon compagnon de détention en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes collaborateurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. On va juste finir avec ça. Au nom de l'amour. On a vu, le titre, c'était « Au nom de l'amour ». Est-ce que vous seriez prêt aujourd'hui à faire un geste concret, de lancer un appel ou d'écrire une lettre à celui ou celle qui vous a invité à l'Église la première fois, peut-être pas ici, peut-être ailleurs, puis que vous avez entendu la vie éternelle au travers de cette personne-là ou parce qu'elle vous a invité à un événement ou quoi que ce soit? Peut-être qu'elle a bifurqué complètement. C'est pas grave, ça. Elle vous a quand même. Vous avez une dette éternelle envers cette personne-là. Vous dites, sais-tu quoi? Merci. Puis, sais-tu quoi? Si elle s'est éloignée de la personne, ça va faire réfléchir, mon Dieu. Seriez-vous prêt à faire ça, à être reconnaissant envers ceux qui vous ont guidé dans votre recherche spirituelle? Peut-être même, moi, je suis reconnaissant envers un curé qui m'a envoyé dans une retraite de réfléchir pendant 24 heures. Parce que là, dans cette retraite-là, finalement, je suis allé lire sur l'amour de Jésus, Matthieu 5, 6 et 7. Ça m'a percuté. Puis après ça, je suis reconnaissant envers celui que quand j'étais assis, il m'a montré que la vie, c'était comme une roue, qu'on avait besoin de l'amour des autres, mais on avait aussi besoin de l'amour de Dieu. Puis il a commencé à mettre des rayons dans ma roue toute vide. Je ne sais pas s'il connaissait la vie éternelle, ce gars-là, mais il m'a guidé à quelque part vers l'amour de Dieu, parce que deux semaines après, je recevais la vie éternelle. Et là, j'ai commencé à repenser à tous ceux qui ont été dans mon cheminement. Est-ce que je serais prêt? Même s'il y aurait eu un conflit entre vous deux, seriez-vous prêt à dire merci à une personne qui, vous étiez nouveau chrétien, vous faisiez des mauvais choix, puis à un moment donné, cette personne-là vous a comme encadré, puis a dit hey, « ça, c'est un piège du malin. Ça, va pas parler, fais attention. » Puis là, à cause de ça, vous êtes resté dans les voies du Seigneur. Seriez-vous prêt à faire des gestes concrets? D'abord, de dire merci à Jésus pour ces gens-là, mais vous êtes endetté envers ces gens-là, de leur dire merci. Des gens qui vous ont conseillé quand vous étiez encore immature, et si l'autre vous aurait offensé, puis que les ponts seraient brisés, seriez-vous quand même capable de dire, ah, sais-tu quoi, j'ai une dette envers toi. Tu m'as fait connaître le message de la vie éternelle, tu sais. Au nom de l'amour. Réalisez votre dette d'amour. Peut-être que vous avez une étape à franchir comme Onésime, c'est vous autres qui avez fait quelque chose. Et vous devez retourner vers la personne que vous avez offensée pour réparer. Au nom de l'amour, seriez-vous prêt à faire ça? Seriez-vous prêt, comme Philémon, à dire, celui qui m'a offensé, s'il est repentant, je suis vraiment prêt à le pardonner? Et si c'est possible, même de le restaurer? Peut-être que vous avez une famille puis qu'elle est brisée par la division, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de grâce. Peut-être que c'est un autre qui a fait quelque chose, puis peut-être que vous pourriez passer après puis réparer ce que l'autre a cassé, un peu comme Paul fait avec Onésime, au nom de l'amour, puis de voir ce qui va se passer dans la famille à partir de là. Je ne sais pas. Que la grâce et la paix vous soient données de la part du Père et de Jésus-Christ, c'est ce que Paul avait dit à Philémon. Est-ce que vous êtes prêt à arrêter de dire « Jamais! » Je veux l'avoir dans ma vie encore. Arrêtez de dire ça. Je l'ai dit souvent. Je l'ai dit deux fois, trois fois dans ma vie. J'ai été obligé de reprendre mes mots. Mais ce que j'ai dit, je l'ai dit. Arrêtez de dire « Jamais! » Et laissez la grâce et la paix de Dieu diriger vos cœurs pour qu'à un moment donné, quand vous serez plus, vous ne voudrez plus arracher la tête de l'autre, ben, il va peut-être avoir un flat sur le bord du chemin. Et c'est vous qui allez l'aider. Pas y donner un coup de cric sur la tête. Pas essayer de l'arranger. L'aider. Parce que vous avez juste accepté d'abandonner la colère, laisser la fureur. Joseph qui s'est fait trahir par ses frères. Ah, ma gang, attendez, mais que je vous revoie. Je suis rendu le deuxième plus puissant en Égypte. Attendez, mais que je vous revoie. Non, ils sont arrivés, ils les ont nourris. Ah, il allait crier à l'autre bout, puis on l'entendait crier partout, il pleurait, puis il lâchait des cris. Ça, c'était le cri des douleurs de la grâce. Pourquoi? Parce que ça fait mal, il pourrait leur faire payer. Là. Il est rendu l'assistant du pharaon, là. Il est l'homme le deuxième le plus puissant au monde. Là. Il pourrait tous les enterrer vivants, puis les regarder mourir doucement avec le poids de la terre. Il pourrait faire ça, s'il veut. Il s'en va crier, je les laisse-tu aller? Je les renvoie-tu libres? Je les laisse-tu aller? Ou je les punis? Qu'est-ce que je fais? Le cri de la grâce. Pourquoi? Parce que ça fait mal. Au nom de l'amour, arrêtez de dire jamais, jamais, à moins que vous soyez battu, puis à chaque fois que vous y retournez, vous faites battre. J'espère que vous allez dire jamais. Ou en tout cas, pour un bout de temps, vous allez dire jamais, jusqu'à temps que l'autre se restaure. Puis au nom de l'amour, est-ce que vous êtes prêt, comme Paul, à parler à Philémon, puis parler aux gens selon leur potentiel, selon qui ils sont? Wow! Merci Seigneur pour l'épître de Paul à Philémon. Merci que ce message au nom de l'amour vient chercher en nous, non pas l'obligation de pardonner, mais le fait qu'on s'oblige à pardonner. Au nom de l'amour, qu'on s'oblige à faire certaines choses que les chrétiens, même si on n'a pas le goût de faire, on va les faire, Seigneur Dieu, parce que c'est ton amour qui pèse sur mon cœur. Merci pour ce temps, et c'est pour ça qu'on veut prendre la Sainte Cène en se rappelant que tu n'étais pas obligé d'aller à la croix, mais tu t'es obligé à mourir pour nous, pour qu'on puisse être sauvés. On te remercie pour ça. Et on va prendre les éléments, ils vont avoir un chant, et puis on va distribuer les éléments. Ça marche?
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.